Bienvenue à vous, ici à Nouvelle-Vie à Longueuil, à notre communauté en ligne, à toi qui es de l'autre côté de ton écran. Le titre du message ce matin dans le cadre de notre série « Le Dieu que tu ne connais pas », le Dieu qui renouvelle nos forces. Combien croient qu'en cette fin d'année, nous avons tous besoin du Dieu qui renouvelle nos forces? Je vais vous lire un petit témoignage en commençant quelques mots. Le Dieu qui renouvelle nos forces, c'est en sa présence qu'il renouvelle nos forces. Cher Pasteur Claude, j'ai juste un petit mot pour vous me remercier, Chantal et vous, mon époux Chantal, et vous, pour le retour de la prière des femmes le mercredi matin. C'était comme une source de bénédiction qui a abreuvé mon âme. Je suis infirmière, mon département au complet est au bord de l'épuisement et j'avais congé ce jour-là. Je me sentais à plat physiquement, émotionnellement et oui, spirituellement aussi. Mais quand les enfants sont partis pour l'école, je me suis dit « j'y vais ». Je ne l'ai pas regretté. Dès que je suis entré dans la salle, j'ai ressenti la présence de Dieu. Ça me faisait tellement de bien de louer le Seigneur avec toutes ces femmes. Le message de Chantal était tellement encourageant. Elle trouve toujours les mots et les pensées pour nous fortifier. Je suis sorti de la réunion boosté. Je suis allé dîner après avec une amie que je ne savais même pas qu'elle serait là et elle m'a témoigné elle aussi à quel point la réunion de prière l'avait bénie. Quand mon amoureux est revenu du travail, j'étais encore toute boostée et il m'a même demandé qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour être de si bonne humeur. Comme ça, tu étais épuisée ce matin. Je lui ai dit, j'ai été à une réunion de prière à Nouvelle Vie. Alors, mesdames, vous êtes capable de vous rendre ce mercredi, tous ceux qui nous regardent en ligne, ce mercredi 23 novembre 2022 à 9h30 AM, venez prier ensemble avec les femmes. Et si vous visionnez cette prédication, vous qui êtes en ligne plus tard, eh bien, consultez nos sites. Chacun de nos sites ont des réunions de prière. Nouvelle Vie, c'est une maison de prière. C'est là que Dieu renouvelle nos forces. Et ceux qui ont été renouvelés dans la présence de Dieu disent Amen ce matin et applaudissent le Dieu qui renouvelle nos forces. Il y a 2800 ans, un prophète dans la Bible du nom de Ésaïe a fait ce constat, cette déclaration et ce constat sur la condition humaine. C'était il y a des millénaires et pourtant brûlant de réalisme et d'actualité et de pertinence pour nous aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 40 et les versets 29 et 30, il dira « Même les plus jeunes et même les plus forts se fatigue, se lasse, chancelle et tombe en défaillance. » Même les plus jeunes, même ceux qui en apparence ont l'air les plus forts, se fatiguent, chancellent et tombent en défaillance. Et alors qu'on sort de cette pandémie, il y a une étude après l'autre en cette fin d'année 2022 qui viennent confirmer à quel point c'est une réalité pour beaucoup de gens. Quelques articles que j'ai lus récemment, anxiété et dépression, le taux préoccupant de symptômes d'anxiété et de dépression chez les jeunes secondaires, une étude de l'Université Laval 2022, Université de Montréal, pardon. Une étude menée auprès d'élèves du secondaire révèle que plus de la moitié rapporte des symptômes prononcés d'anxiété ou de dépression et 32 % éprouveraient des symptômes d'anxiété de performance. Même les plus jeunes chancellent. La Tribune numérique, une étude récente, il y a une urgence d'agir pour la santé psychologique des jeunes, selon cette étude. La pandémie de COVID-19 porte un coup dur à la santé mentale des jeunes Québécois. Chez les 16-25, un jeune sur deux présenterait des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée à sévère, selon une récente enquête de l'Université de Sherbrooke et du CIUS. Peu d'optimisme chez les jeunes. Parmi les faits inquiétants, la psychologue, la docteure Généreux, note qu'un jeune de 12 à 25 ans sur 4, un sur 4, a pensé qu'il serait mieux mort ou à penser à se faire du mal au cours des dernières deux dernières semaines. On parle de novembre, un phénomène en hausse fulgurante depuis 2 ans, notamment chez les jeunes secondaires et les jeunes du cégep, mais aussi, dit l'article, dans la population générale et notamment en hausse critique également chez nos aînés. Une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, pas seulement pour le Québec, mais l'Organisation mondiale pour la santé, le stress est sans précédent causé par l'isolement social résultant de la pandémie et l'une des principales explication de cette augmentation. À cela s'ajoutent les restrictions qui ont pesé sur la capacité des gens à travailler, à obtenir un soutien auprès de leurs proches, à prendre part à la vie sociale. Les cas d'anxiété et de dépression dans le monde sont en hausse de 25 % en raison de la pandémie. Et un dernier article de la CBC, tout récent réalisé avec un sondage d'Angus Reid pour le Canada, dans un nouveau sondage réalisé par l'Institut Angus Reid en partenariat avec la CBC, 54 % des Canadiens ont déclaré que leur santé mentale s'était détériorée au cours des deux dernières années. Les femmes s'en étant nettement moins bien tirées que les hommes. Souvent, les femmes portent encore plus de fardeau à toutes sortes d'égards. 60 % des femmes âgées de 18 à 34 ans ont déclaré que leur santé mentale s'était détériorée. 60 % des femmes, tout au long de la pandémie. Et ce chiffre est passé à 63 % pour les femmes âgées de 35 à 54 ans. Alors, nous avons cette réalité qui est là en cette fin d'années avec une séquelle, avec des séquelles post-pandémiques, avec les niveaux de récession, les nuages de récession au-dessus de nous, avec une explosion des coûts, tout simplement du panier alimentaire, de l'essence, du coût du logement, avec les hausses des taux d'intérêt qui grimpent dangereusement, des grondements de guerre en arrière-scène et d'attaques même nucléaires bien réelles dans le conflit entre la Russie, l'Ukraine, la Chine, l'OTAN, des bouleversements climatiques qui provoquent une anxiété climatique chez des centaines de millions. Oui, même les plus jeunes, même les plus forts se fatiguent, se lassent, chancellent et tombent en défaillance. Mais je veux vous annoncer ce matin que ceux qui apprennent à se confier en l'Éternel vont renouveler leur force. Voulez-vous applaudir avec moi la possibilité de voir nos forces renouvelées par la main de Dieu? Les forces renouvelées par la main de Dieu, c'est nous sommes ensemble des ambassadeurs qui deviennent l'expression de Dieu envers tous ceux qui ont besoin que leur force soit renouvelée. Même l'expression très, très pratique pour simplement semer encouragement, renouveler leur force. Comme nous l'avons découvert dans le message récemment, le Dieu qui défend les vulnérables. Nous sommes des ambassadeurs qui aident tangiblement de mille et une façons, toutes les façons possibles, afin de devenir une expression pratique avant qu'ils découvrent l'expression spirituelle. De découvrir une expression pratique même, l'incarnation bien réelle du Dieu qui veut leur donner des forces, l'espoir et le courage, redonner des multitudes une personne à la fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans chaque geste de générosité que nous allons faire dans ces prochaines semaines jusqu'à Noël et qu'on fait toute l'année, dans chaque geste, tout ce que nous faisons pour le plus petit dans, et tous les gestes qui ne sont pas vus, et toute la générosité que personne ne voit, au plus petit, au plus vulnérable, c'est à Jésus que nous le faisons. Jésus a dit, ce que tu fais au plus petit, ce que tu ne fais pas. Et bien les gens qui ne connaissent pas cette pensée-là de Dieu, ne connaissent pas le fait que chaque croyant va se présenter devant Dieu et va rendre compte pour la générosité qu'il va avoir eue ou ne pas avoir eue. Et à chaque fois, c'est tellement puissant, chaque geste, Jésus l'a dit de cette façon, dans Matthieu 25, « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, j'étais immigrant, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et c'est notre rôle d'être des ambassadeurs de celui qui veut renouveler leur courage et leur force, même dans les façons les plus tangibles. Jésus a dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger et à boire. Et je veux juste vous annoncer ce matin qu'on se réjouisse ensemble la réouverture de la banque alimentaire Bouffe Partage de Châteauguay qui est soutenue, approvisionnée par l'organisme Action Nouvelle Vie. 200 familles par semaine maintenant qui recommencent à recevoir des paniers alimentaire, ça s'ajoute aux 15 000 personnes par mois qui reçoivent. Nous vivons à chaque semaine, j'avais faim, j'étais nu, vous m'avez donné à manger. En ce moment, on a 50 personnes par semaine qui s'inscrivent à notre banque alimentaire. Et Jésus continue, il dit, j'étais un immigrant et vous m'avez accueilli. Les immigrants font partie de ce que la Bible appelle le quatuor des vulnérables. Le quatuor des vulnérables, c'est la veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. Et notre église hispanophone, Nueva Vida, c'est que l'église entière, mais particulièrement cette dernière semaine, Nueva Vida accueille des dizaines et des dizaines d'immigrants. Les organismes envoient les noms. C'est Nueva Vida qui les accueille il y a quelques semaines, un samedi soir à 23 heures, parce que Nueva Vida est remplie de jeunes et l'église, la réunion est samedi soir. Et mon ami Cristiano Montina, qui ne réalise pas que le samedi soir, quand Pasteur Claude se lève à 4 heures le lendemain matin, à 11 heures le samedi soir, Pasteur Claude fait dodo. Et pourtant, et je reçois ce courriel. Bonsoir, Pasteur Claude. Je me suis dit, je vais me retenir de ne pas vous écrire, mais maintenant, finalement, je n'arrive pas à me retenir. On partage avec vous la joie d'avoir reçu pour la deuxième fois 67 immigrants ce soir. Deux voyages en autobus, nos autobus. Ils ont vécu la communauté en action. On a donné des repas chauds à chacun d'entre eux, des vêtements chauds. On a aussi reçu deux sœurs d'Action Nouvelle Vie pour expliquer plus en profondeur la suite, les procédures à respecter concernant leur intégration au pays et comment devenir des bénéficiaires d'Action Nouvelle Vie. Aujourd'hui, nous avons eu une assistance de 401 personnes à Nueva Vida. Merci du fond du cœur pour votre leadership, votre passion. Et parmi ceux qui viennent et qui ont reçu, il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont commencé à s'intégrer dans la vie de l'Église. J'étais étranger et tu m'as accueilli. J'étais en prison et tu m'as visité. Nous sommes là pour être l'expression du Dieu qui veut redonner des forces, du Dieu qui veut leur redonner courage. Quelle joie pour moi de voir le ministère de Nouvelle Vie se développer en ce moment dans les pénitenciers sous le leadership de pasteur Stéphane Kéry qui est, en plus de toutes ses autres fonctions pastorales, est maintenant officiellement reconnu comme un aumônier. Il visite tous les pénitenciers, conduit des hommes au Seigneur. On organise avec lui un gros projet de Noël pour aller aider mes fans, leur donner de l'espoir derrière les murs. Et je veux juste souligner, je suis tellement fier, il y a quelques semaines, les musiciens de Nouvelle Vie Worship sont allés faire un concert derrière. La deuxième fois, ils vont faire un concert pour quelques dizaines de détenus qui étaient là, des hommes qui ont été 20 ans, 30 ans, 40 ans en prison. J'étais en prison et tu m'as visité. Combien croient que le cœur de Dieu prend plaisir à nous voir ainsi, juste être présent pour renouveler les forces des gens, les encourager. Je regardais la télé récemment, la Bible dit on t'appellera alors celui qui répare les brèches, et qui restaure les chemins, rend le pays habitable. J'ai regardé un documentaire récemment, documentaire de Radio-Canada, ça s'appelle Police avant-gardiste, c'est sur notre corps de police ici à Longueuil, c'est sur les policiers de Longueuil, en particulier le chef de la police pour qui nous prions, Fadi Daguerre du groupe Réseau d'entraide sociale organisationnelle. Et c'est un escouade qui est très, très impliqué dans la communauté. J'étais assis dans mon salon, je regardais le documentaire et tout à coup, une des policières dit oui, on a toutes sortes de partenaires dans la communauté et récemment, on avait des gens qui avaient vraiment besoin. Alors, on a appelé les pasteurs de l'Église Nouvelle Vie et les pasteurs sont venus. Ils étaient tellement gentils. C'était extraordinaire d'impliquer dans... Ça m'a fait penser à lorsque le directeur de la DPJ, Département de protection de la jeunesse pour toute la Rive-Sud en entier, avait fait une vidéo qu'on vous a fait visionner quelques fois où il disait « Sur la Rive-Sud de Montréal, l'espoir a un nom, Nouvelle Vie. » Nous sommes... C'est notre vision. Notre vision, c'est d'être l'expression. Dans notre vision, nous sommes une aide qui est l'expression de Dieu qui renouvelle les forces, chacun y contribuant. Mais c'est aussi la vision de cette aide qui devient un appel où chaque personne peut non seulement recevoir l'expression, mais peut expérimenter le Dieu qui renouvelle nos forces. Comment le Dieu qui renouvelle nos forces aujourd'hui. Et là, on va lire un texte magnifique. Dans Ésaïe, chapitre 40, et c'est notre texte aujourd'hui, « Le Dieu qui renouvelle nos forces » au verset 28 jusqu'à 31. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Même les plus jeunes, les adolescents se fatiguent et se lassent, s'épuisent. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le contexte de cette parole de Dieu, cette parole du Seigneur à son peuple, le contexte en est un que je pourrais décrire de cette façon, peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est un contexte, une chose après l'autre. Lorsque vous voyez, avez-vous déjà vécu une saison dans votre vie, et peut-être que c'est votre cas en ce moment, où c'est une chose qui frappe après l'autre. Je suis au bout de moi-même, c'est une chose après l'autre. Lorsque vous lisez le chapitre précédent, le peuple a traversé une épreuve après l'autre. C'est une chose après l'autre. Une saison qui te fait dire, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Une chose après l'autre, il y a des larmes, c'est des déceptions, ça peut être dans ta famille, dans tes amitiés, ça peut être à ton travail en même temps que dans la santé, ça peut être tes enfants, ça peut être que tu traverses quelque chose de tellement dur émotionnellement, mais en même temps, il y a des pressions qui sont financières, c'est un contexte d'une chose après l'autre. Comme chrétien, c'est des saisons où je sais que Dieu existe, mais il me semble bien éloigné. Des saisons où je sais qu'il est le Créateur, mais moi, je suis en crise. Moi, je vis un combat. Moi, je vis une crise en ce moment. J'ai des craintes, j'ai toutes sortes de confusions. Et la question est, comment Dieu peut-il renouveler nos forces aujourd'hui dans nos contextes, nos crises, nos combats? Et la première pensée pour toi ce matin, c'est qu'il est le Dieu qui renouvelle nos forces quand je reviens et je me rappelle. Toi, derrière ton écran, ici, en personne, la Nouvelle Vie, il est le Dieu qui renouvelle nos forces quand je reviens et me rappelle. Chapitre 40 et le verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez. » Fait référence au ciel, au firmament, aux galaxies, à tout le firmament du ciel. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Il appelle chaque étoile par les a nommées. Par son grand pouvoir, par sa force toute puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Remarquez bien que le peuple à qui Dieu s'adresse dans Ésaïe chapitre 40 était un peuple qui avait une saine connaissance et compréhension spirituelle. Comme plusieurs d'entre nous, nous regardons au ciel et nous savons qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un ordre divin. Nous croyons qu'il y a un créateur. Je sais qu'il y a des étoiles, le ciel, la complexité, l'unicité, la complexité, la diversité et l'ordre divin de tout ça. Je ne suis pas de ceux qui sont bornés à essayer de soutenir la théorie que rien plus personne égale tout. Je sais qu'il y a des milliards et milliards d'étoiles, de planètes et de galaxies et que Dieu les a créées et que Dieu les a nommés et il connaît leur nom. Mon problème, c'est que je pense qu'il a oublié le mien. Je pense qu'il a oublié mon nom. Ils avaient une saine connaissance et compréhension spirituelle, mais il y avait un cri, il y avait une douleur dans leur cœur. Et vous dites, Pasteur Claude, j'ai pas vu ça, cette douleur-là, dans le texte que tu as lu, c'est dans le verset qui va suivre, parce que si ils ont une saine connaissance et compréhension spirituelle, comme toi et moi, comme plusieurs d'entre nous, il y avait aussi en eux une souffrance et un cri silencieux. Une souffrance, un cri silencieux, on le retrouve au chapitre 40, verset 27, le même chapitre, le verset suivant. « Pourquoi dis-tu, ô Jacob, ô Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Dieu ne me voit pas. Dieu ne doit pas voir tout ce que je vis. Dieu ne doit pas voir tout ce que je vis. Lorsque vous avez ce texte-là en hébreu, la traduction la plus mot à mot, c'est « La justice qui m'est due n'est pas reconnue devant mon Dieu. » Ce que je vis, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça avec mes enfants. Je ne mérite pas ça avec mon travail. Je ne mérite pas d'être traité comme ça. Je ne mérite pas de pleurer comme ça. Je ne mérite pas d'être laissé comme ça. Je ne mérite pas d'être passé, qu'on passe devant moi comme ça. Je ne mérite pas qu'on m'ait oublié comme ça. Je ne mérite pas de... Après tout ce que j'ai fait, je ne mérite pas. C'est pas juste. Seigneur, je suis sans force. Je ne mérite pas d'être anxieux comme ça. Je suis sans force. On peut tous prétendre qu'on est super spirituel, puis que ce genre de pensée-là ne nous affecte jamais, ne nous a jamais effleuré. Mais de connaître Dieu intellectuellement, je sais qu'il est créateur de toutes choses, il a nommé toutes les étoiles, ne change pas parfois les réalités du cœur, de la conscience qui est dans la crainte et la confusion intérieurement. De connaître Dieu intellectuellement ne fera pas la différence lorsque tu traverses des crises intérieurement. C'est justement, précisément dans ces saisons-là qu'il faut que je revienne et que je me rappelle de qui est mon Dieu. Revenir à lui, revenir à son caractère. Le verset 28. « Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu de l'éternité et l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut pas limiter ou sonder son intelligence. » C'est peut-être surprenant pour toi, mais quand Dieu adresse ta situation, il ne répond pas par théoriquement, académiquement, stérilement, intellectuellement, froidement, ou même seulement à l'autre extrême, émotionnellement. Il répond en fait théologiquement. Dans ce que nous traversons, dans les pires moments, Dieu dit « Reviens et rappelle-toi qui je suis ». Rappelle-toi, ne l'as-tu pas connu? Ne l'as-tu pas appris. Je suis, quand ton monde éclate en mille morceaux, ce n'est pas le moment de courir loin de Dieu. C'est le moment de revenir. C'est le moment de te rappeler qui est ton Dieu et de te rapprocher de lui. Quelqu'un devrait dire oui. Dieu dit, toi, cours pas loin de moi. Rappelle-toi, reviens. Quand nous traversons une saison sans force, nous devons garder dans le lobe frontal de nos pensées qu'il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu de toute connaissance. Il est le Dieu de toute intelligence. Il est sans limite. Il est insondable. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Quand tu traverses les pires saisons, il est le Dieu éternel. C'est ça que tu as besoin de revenir. Je dois me renouveler. Je dois revenir, me rappeler. Il est le Dieu éternel. Il est omniscient, il est omnipotent. C'est ce qu'on a lu. Il est le Dieu de toute éternité. Lui, il ne change pas. Il a toute connaissance. Il a toute sagesse. Il est tout puissant. Quand tu traverses le pire du pire, il faut que tu viennes te réfugier, te ressourcer, te renouveler, te rafraîchir, te rapprocher, être renouvelé dans tes forces, dans le caractère de ton Dieu, dans sa nature, dans qui il est. Quelles que soient les émotions, lorsque tout change, tu as besoin de courir vers celui qui ne change pas. Tourner vers celui qui ne change pas. Je reviens et je me rappelle, c'est comme ça que Dieu renouvelle mes forces. Quand je reviens, je me rappelle qui il est. Dans les saisons, boutons de panique, où j'ai pesé sur tous les boutons de panique possibles. Dans les saisons où Dieu semble non localisable. Job a dit, j'ai cherché au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et dans mon désespoir, c'est comme si je ne trouvais pas Dieu. Quand l'apparence, elle est fausse, mais quand l'apparence d'absentéisme de Dieu dans ta situation te ronge le cœur, quand il y a tellement de choses que tu ne sais pas, je ne sais pas quoi faire, ou que tu ne sais plus, je ne sais plus ce qui m'arrive, il faut que tu te tournes vers celui que tu connais. Il faut que tu te tournes vers ce que tu sais de ton Dieu. Il faut que tu retournes vers lui. Il faut que tu retournes parce que tu sais. Il faut que tu ancres ton cœur dans il est le Dieu éternel. Il n'y a pas de limite. Moi, je suis limité, mais lui, il n'y a pas de limite dans le temps ou dans l'espace. Il est le Dieu omniscient. Il n'y a pas de limite. Il connaît tout, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ma vie. Il est le Dieu omnipotent créateur. Il n'y a pas de limite à sa puissance, à sa capacité de changer le mal en bien. On ne peut pas sonder son intelligence. Newsflash! Dieu n'est pas toujours facile à comprendre pour nous. Il n'y a pas personne qui veut l'avouer. Dieu n'est pas toujours facile à comprendre parce que ses voix sont un billion de guillons au-dessus des nôtres. Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a des choses qui nous sont révélées et des choses qui nous semblent cachées dans tous nos éternels. Pourquoi? Le Deutéronome 29-29 dit « Dieu a des choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique, toutes les paroles de ses commandements. » Parfois, Dieu va te révéler ce qu'il fait, ce qu'il permet, ce qu'il est en train de faire. Parfois, il va te le révéler. Parfois, ça n'est pas révélé maintenant, c'est révélé plus tard. Pendant que tu le traverses, tu te focalises sur lui. C'est lui, je reviens à lui, je le connais. Il est éternel, il est tout puissant, il ne change pas, son intelligence est insondable, sa sagesse est parfaite. Il y a des fois, vous avez tous ceux qui marchent avec Dieu depuis un certain temps. Il y a des saisons où je ne comprenais absolument rien, mais je me suis gardé en lui. Et dans la suite des temps, j'en viens à voir la bonté, la fidélité et la grandeur de Dieu dans le futur. Bon, un petit peu moins de « ouh », alors je vous dis la prochaine partie. Parfois, Dieu va te répondre maintenant, va te le révéler maintenant, les choses. Et parfois, il va te le révéler plus tard. Et parfois, il ne te le révèle pas. Les choses que, que Dieu, le texte l'a dit, les choses cachées. Des choses qui sont cachées qui appartiennent à l'Éternel. Et c'est pour ça que la seule façon dont je vais être renouvelé dans mes forces, c'est alors que je reviens à Dieu, alors que je me rappelle son caractère et alors que je relâche. Dites avec moi le mot « relâche ». Alors que je relâche. Écoute-moi, c'est très important. Je peux poser des questions à Dieu, mais je ne peux pas mettre Dieu en question. Je peux poser mes questions à Dieu, mais il y a une ligne lorsque je commence à le mettre en question dans ma vie. Vous dites, c'est quoi la différence? Poser une question, c'est je demande parce que je veux comprendre. Et lorsque je commence à remettre Dieu, son royaume, sa parole en question, qui il est, c'est que je défie et même je peux en venir à diffamer son caractère, qui il est. Quand tu demandes, c'est pour être enseigné, pour être éduqué. Quand tu défies, c'est parce que tu exiges. Et ça, c'est destructeur. Écoute-moi bien. si tu ne relâches pas et que tu essaies de figurer Dieu, de comprendre tout et de mettre dans une boîte, de tout comprendre, de figurer Dieu, t'exiges de figurer Dieu avec les pourquoi infinis du passé et du présent, c'est littéralement du phosphore à 1000 degrés Celsius qui va brûler ton âme, ton cœur, ta foi, ta joie et ta louange. Vous savez de quoi tu parles, parce que vous n'avez pas vu ça dans l'actualité? Il y a eu plusieurs articles comme ça, mais il y en a un en particulier. En Normandie, ça vient d'arriver. En Normandie, il y a un touriste qui a ramassé une belle petite pierre, toute rose, toute rosée, une belle petite pierre rose. Il y a des gens qui ramassent des pierres, les galets, les cailloux sur la plage. Et là, c'est un beau petit caillou rose, c'était magnifique. Et puis, il l'a mis dans sa poche. Mais cette pierre était en réalité un morceau phosphorique de la guerre passée, de la dernière guerre 39-45, du débarquement, et qui n'était pas encore actif et dangereux. La pierre s'est embrasée, a pris feu sur lui, puis a été brûlée au deuxième degré sur le trois quarts de son corps. La pierre était, je lis l'article, la pierre semblait inoffensive et inactive alors qu'elle était rafraîchie par l'eau, mais lorsqu'elle est sèche, elle s'embrase. La question, c'est est-ce que toi, tu renouvelles et rafraîchis ton âme dans la présence de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans qui il est, est-ce que tu relâches et que tu rafraîchis? Parce que lorsque ton cœur est sec, si tu traînes des cailloux, des guerres passées et tu les mets dans ton âme, dans les périodes de sécheresse, elles peuvent t'embraser au complet. Elles peuvent embraser, elles peuvent tout détruire dans ta foi. Ce que moi et toi avons besoin, c'est cette honnêteté. Parce que je vais vous dire franchement, je dois vous admettre, confesser, il m'est arrivé, et toi aussi, des saisons de vraiment profond. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi eux comme ça, bénis comme ça et moi? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi tu n'agis pas maintenant? Pourquoi c'est si long? Le tourment futile et inutile des pourquoi toxiques et inutiles, toxiques et qui nous vident de nos forces. Écoute-moi bien, si tu ne relâches pas tes circonstances au Dieu éternel, tout-puissant et toute sagesse, amour, justice et connaissance, tu vas être réduit à tes circonstances. Et si tu relâches, tu vas être renouvelé et élevé au-dessus de tes circonstances devant Dieu. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé de dépasser la ligne entre poser des questions à Dieu et mettre en question Dieu. Quelques fois dans ma vie, et très rapidement, avec crainte et tremblement, reviens rapidement. Je veux quitter le champ de mine de ce terrain si dangereux pour mon âme où je questionne Dieu. Je dois vivre avec cette maturité, cette confiance. C'est lui qui décide ce qu'il partage, ce qu'il révèle et ce qu'il retient. Et mes forces, comme nous avec nos enfants, tous les parents qui sont ici à différents âges, il y a des choses que tu ne peux pas révéler aux enfants, tu ne peux pas expliquer maintenant, ils ne pourraient pas les comprendre, ils ne pourraient pas les saisir, ils ne pourraient pas les apprécier, des choses qu'ils vont être révélées seulement plus tard. Et c'est fondé dans ton amour pour eux, dans ton bien pour eux. Mes forces et ma foi sont renouvelées dans ma confiance absolue que ce qu'il choisit de ne pas me révéler repose sur son amour, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur le Dieu de toute intelligence, le Dieu éternel, le Dieu qui est tout-puissant, alors il est mon Dieu et je relâche tout entre ses mains. Il est Dieu lorsque la vie, il est Dieu lorsque la mort, il est Dieu lorsque je comprends, il est Dieu lorsque je ne comprends pas, il est Dieu lorsque je vois clairement ce qui s'en vient, il est Dieu lorsque je ne sais rien du tout d'autre que il est Dieu et il est digne que je relâche tout entre ses mains. Pouvez-vous dire amen et applaudir à peu près 7-8 secondes que je prenne une gorgée? Merci. Dieu, le Dieu qui renouvelle nos forces, quand je reviens, quand je me rappelle son caractère, quand je relâche, ma foi, je relâche avec confiance parce que je sais que même lorsque je ne vois rien, Dieu n'abandonne jamais le navire. Dieu n'abandonne jamais le navire. On se rappelle tous du 13 janvier 2012 où le capitaine du navire Costa Concordia s'appelait Francesco Chettino, a abandonné le navire. Et littéralement, c'est capitaine de navire où il y avait plus de 4000 personnes à bord, puis il est allé très, très proche des côtes parce qu'il voulait impressionner une femme qui était là sur le bord, puis il avait dit, je vais passer tellement proche, tu vas pouvoir me faire des babayes. Il a frappé une bande rocheuse et a abandonné le navire avec 4000 personnes dedans. Il y a eu 32 morts, il a été condamné à 16 ans de prison et a abandonné le navire. Les hommes abandonnent les navires. Tu as connu d'être abandonné, tu as connu d'avoir eu des promesses brisées, Tu as connu des saisons où est-ce que tu as été abandonné dans un divorce, abandonné par un ami, abandonné par des gens qui t'avaient toute confiance, abandonné, te sentir des gens qui peuvent être en ligne et tu te sens abandonné même par tes propres enfants, tu penses que tu as été trahi, tu as été abandonné par l'Église, par un leader chrétien. Je veux te dire aujourd'hui, tu peux relâcher tout dans les mains de Dieu. Il n'abandonne jamais le navire. Il a commencé une œuvre, il va l'accomplir. Rien ne peut te séparer de son amour. Ésaïe 41 dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiendrai dans ma droite triomphante. » Tu peux tout relâcher entre ses mains. Il n'abandonne jamais le navire. Et voici un témoignage. Il y a un témoignage dans le psaume 66. Je vais vous lire un témoignage dans le psaume 66 qui est le témoignage de tous ceux au fil des millénaires qui reviennent, se rappellent le caractère de Dieu, se réfugient dans le caractère de Dieu et relâchent tout à Dieu. Psaume 66, 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a donné? Il était tellement puissant qu'il a donné une vie absolument parfaite sans la personne n'a eu aucun trouble, aucune difficulté. Non. Enfin, regardez bien le témoignage. Psaume 66. Il a donné de la vie à notre âme. Il a renouvelé mes forces. Il n'a pas permis comme notre pied chancelle. Et là, il y a une exclamation dans l'hébreu original. Oh Dieu, oh, comme nous avons été éprouvés, oh Dieu, regardez bien son témoignage. Nous avons été pris dans des filets, nous avons porté des pesants fardeaux, des hommes sont montés contre nous, nous avons passé par le feu, nous avons passé par l'eau, mais tu nous en as tirés pour de l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin qui peut témoigner? J'ai passé par le feu, j'ai passé par l'eau, j'ai porté des fardeaux, j'étais pris dans des filets, mais j'ai tout relâché et il nous en a tirés pour l'abondance. Allez, pouvez-vous l'applaudir avec moi? Il est le Dieu qui renouvelle nos forces. Quand je reviens, quand je me rappelle, quand je relâche et j'apprends à me confier en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Quand je rassemble, relie et réunis tout en lui. Dieu dit, lorsqu'on on lit le mot, il renouvelle leurs forces. Dieu dit, quand ton monde s'écroule, quand tu cries, ce n'est pas juste. Quand le fardeau semble trop lourd, lorsque tes forces te manquent, une vue ou une perspective basse de Dieu va faire en sorte que ta crise prend le contrôle sur toi. Mais une vue élevée de Dieu, où tu relâches et où tu te rappelles et où tu prends refuge dans sa fidélité, il est le Dieu d'éternité, de toute sagesse, de toute connaissance, de tout amour, de toute puissance, une vue élevée de Dieu. Si tu n'as pas cette vue élevée de Dieu, c'est tes circonstances qui vont prendre le contrôle sur toi. Mais une vue élevée de Dieu va t'amener à tout confier, tout rassembler et confier à Dieu. Lorsque vous lisez le mot « ceux qui se confient en l'Éternel », c'est littéralement Dieu qui dit, il faut que tu apprennes à plus profondément comprendre et surtout complètement te confier en moi. Le mot pour ceux qui se confient en l'Éternel, c'est le mot « kava ». Puis il y a une définition très, très sûre, que ce « kava » en l'Éternel renouvelle leur force. En anglais, l'ont traduit « they that wait upon the Lord », c'est une dimension de patience et d'attente patiente, et c'est une nuance du mot. Mais savez-vous, la signification vraiment, le « primal root », la signification première du mot, c'est très, très intéressant. Le mot « kava » veut dire rassembler, lier ensemble, tisser, serrer, tresser pour fortifier, rapprocher et réunir. C'était une image qu'il connaissait bien. C'est l'image, toutes les mamans qui sont ici, c'est l'image d'une maman qui est en train de tresser les cheveux, de les serrer et tresser les cheveux. C'est une image marine où tu as un câble, il n'est pas assez fort, il va casser, alors il faut tresser autour, il faut tisser autour. On est en train de tout tisser et pour qu'il devienne de plus en plus solide, comme un tricot. Tous les morceaux rassemblés, les morceaux de laine qui sont rassemblés, tressés. Et se confier en Dieu, peut-être tu n'as jamais entendu ceci, se confier en Dieu, c'est apprendre à tresser la bonté, l'amour, la fidélité de Dieu, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, la tresser, la nouer, la relier, la rassembler avec toutes les situations que je traverse. C'est tresser Dieu dans l'affaire. C'est l'entrée, le psalmiste dit cette façon, psaume 135, 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je me cava. Je tresse toute ma vie et tressée dans les promesses de Dieu. Toute ma vie est entourée, est enrobée. Toute ma vie est entourée, est portée. Toute ma vie est tissée dans les promesses de Dieu. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes comptent sur le matin. Je me cavale, je tresse toute ma vie en l'Éternel. C'est auprès de lui que je trouve l'espoir, la rédemption et la bonté. Je vais tisser, je vais tresser toutes mes circonstances. Je vais les tresser, les entourer, je vais les mélanger. C'est pas tout éparpillé, c'est tout rassemblé en Dieu, dans ses promesses et devant lui. C'est une foi, je vais rassembler, je vais me confier en Dieu. C'est rassembler, relier, ramener toutes les promesses dans le caractère de Dieu, dans mes combats, dans toutes mes circonstances, dans toutes mes épreuves. Les forces ne sont pas renouvelées seulement par un christianisme superficiel ou 90 minutes, une fois ou deux par mois. Je viens à l'église, j'écoute des chants, j'écoute une prédication. Mais après ça, dans le reste de ma vie, ce que je vis le dimanche est séparé du reste de ma vie. Mes vraies décisions, mes vraies passions, mes vraies affaires, mes vrais combats, mes vraies choses, mes vrais choix, mes vraies priorités, mes joies, tout ça, toute ma vie, ça c'est moi qui amène. Mais le dimanche, je viens ici. Il n'y a pas de force renouvelée là-dedans. Mais lorsque tu tresses, lorsque tu amènes tout, lorsque mes combats, ma famille, mes enfants, ma situation, mes peines sont tressées, sont entourées, sont portées dans les promesses de Dieu. Il y a des forces surnaturelles qui commencent à venir envahir chaque aspect de ta vie. Quelqu'un devrait dire amen. Nous vivons une époque avec une épidémie de christianisme superficiel. Où des chrétiens ont même la pensée que j'ai été à l'église, j'ai donné, mais maintenant Dieu fait ce que moi je veux. Fais-le comme moi je le veux, quand je le veux. Et lorsque ce n'est pas comme je veux, il y a beaucoup de chrétiens superficiels qui sont superficiels dans leur foi, qui en viennent à faire ce que avec Dieu. Leur relation avec Dieu égale ce que j'appelle l'entrevue renversée. Je lis des articles, j'ai vu des podcasts là-dessus, c'est dans les milieux des ressources humaines. Il explique qu'il y a, allé jusqu'à 1990, 2000, il y avait la génération des boomers et autres, lorsque l'employé arrivait devant le patron pour avoir une entrevue, pour espérer se faire engager, l'employé faisait tout pour essayer de gagner le patron, lui montrer pourquoi il devrait l'engager, lui prouver et montrer toute sa valeur. Et que dans la mentalité de plusieurs milléniaux aujourd'hui, et surtout avec la crise de l'emploi, que littéralement les patrons doivent comprendre que l'entrevue est renversée. Que l'employé, il vient devant le boss, puis il y a une mentalité de « Pourquoi je devrais travailler pour toi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? C'est quoi les avantages pour moi? » Je vais y penser. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont un christianisme de situ. Ton christianisme est superficiel dans le sens que c'est ça que tu fais à Dieu. Tu viens devant Dieu, je vais te suivre, je vais te lâcher, mais c'est mieux d'aller comme je voulais. Ben là, ça ne marche pas du tout comme je pensais. Ce n'est pas dans les échéanciers que je pensais. Ce n'est pas dans le timing que je pensais. En ce moment, là, je suis en train de faire une entrevue renversée avec Dieu. Je ne sais pas si je vais vraiment vouloir travailler pour toi. J'aimerais dire que les forces sont trouvées lorsque je tisse ma vie en Dieu. Chaque partie de ma vie est sous les promesses de Dieu, remis à Dieu. Ça lui appartient. Je lui fais confiance. Je relâche et les forces de Dieu viennent renouveler. Il est le roi des rois, il est le roi de ta vie, il est le king, il n'est pas le Burger King. C'est pas toi qui choisis chaque affaire qui va aller dans le burger. C'est Dieu qui est Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, je te fais confiance. Je reviens à ton caractère. Je me rappelle de qui tu es. Je rassemble tout et je le relâche devant toi. Et les forces de Dieu vont remplir ton âme. Comment Dieu fait ça, Pasteur Claude? Comment est-ce qu'il renouvelle nos forces? Il le fait de plusieurs façons. Comment va-t-il renouveler nos forces très tangiblement? C'est important que tu le saches bien, parce que dans le courant d'une vie, Dieu va renouveler tes forces, mais ce n'est pas toujours de la même façon. Il y en a trois dans le texte qu'on a lu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. En hébreu, ça dit littéralement, ils vont renouveler, ils vont trouver des forces nouvelles, des forces qu'on n'avait pas, parce qu'on sait que les forces d'hier ne peuvent pas m'aider aujourd'hui. Les crises, il y a des crises qui nous laissent vides. Des crises qui vont nous vider, nous drainer de nos forces, comme un iPhone qui est déchargé. Je sais que c'est une illustration très simpliste. Mais tu as besoin de l'entendre. L'iPhone qui fonctionne parfaitement, la batterie devient dangereusement basse, à moins qu'il soit branché. Lorsqu'il est branché, il est comme un œuf. Et le texte qu'il veut dire ici, ceux qui sont rechargés en l'Éternel vont trouver des forces nouvelles pour aujourd'hui, des forces nouvelles pour ce que tu vis aujourd'hui. Et là, il y a trois façons dans le texte que Dieu renouvelle nos forces. Il dit, ceux qui ont les forces renouvelées, ils volent, ils courent et il marche. Il vole, il court et il marche. La première façon, celle-là, on l'aime beaucoup. Dieu renouvelle nos forces en me retirant de l'épreuve. Et ça, c'est ils prennent leur vol comme des aigles. Tu peux aller voir sur le National Geographic, les émissions de télévision qui explorent des documentaires sur les animaux. Tu vas voir ça. C'est une scène qui est commune. Le petit aiglon saute en bas du nid pour les premières fois puis essaie de voler. Il ne sait pas voler. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il se débat. Puis il espère, je sais que je fais un mauvais aiglon, mais il se débat et il descend à une vitesse vertigineuse. Il se débat puis il espère ne pas crasher. Y a-tu quelqu'un qui a déjà traversé une saison où tu te débats puis t'espères juste pas crasher? Mais là, l'aigle descend, le maman aigle descend, et vraiment le son, là, c'est swoosh. Faites-le avec moi, faites-moi un swoosh. Raconte-moi, un beau swoosh. Swoosh. Même le son fait du bien, swoosh. L'aigle descend, et lui est en panique, l'aigle descend en dessous, et sur ses ailes, il le prend puis il le soulève. C'est une intervention divine. Et ça, c'est magnifique. C'est une manière que Dieu renouvelle nos forces. Et ça fait qu'on se lève, on crie, on chante. Dieu a intervenu. Swish. Il a guéri, il a libéré, il a pourvu, il a ouvert le ciel. Jéhovah Jireh, dis-le avec moi. Swish. Quelques iras. Swish. Ça, c'est les choses qu'on aime le plus. Quelques mots. C'est l'intervention. Dieu te libère en intervenant. Et ceux qui ont déjà vécu un swish de Dieu, voulez-vous dire amen? Et dites à voix haute, swish! Alors, quelques pensées théologiques sur la doctrine du swish. Nous aimons tellement le swish. On aime le swish. Mais parfois, on résiste au swish. Tu es en train d'essayer de te sortir de quelque chose, de te libérer de quelque chose, puis toi, tu sautes en bas des ailes. Dis à quelqu'un près de toi, laisse Dieu faire son swoosh dans ta vie. Dis ça à quelqu'un près de vous. Parfois, juste en passant de la théologie du swoosh, parfois, nous sommes renouvelés à nos forces, c'est nous qui sommes swooshés. Alors Dieu nous sort d'une situation, intervient, nous sort d'une situation. Et parfois, l'une des manières les plus extraordinaires que Dieu va renouveler tes forces, c'est de swoosher quelqu'un hors de ta situation. Je n'ai pas eu d'emmène, mais c'est vraiment puissant. Il va te libérer d'une relation toxique, il va te libérer d'une situation, il va te libérer de quelque chose qui te retenait, il va te libérer d'une armure qui te retenait, il veut te swisher, puis toi, tu sautes en bas des ailes. Laisse Dieu te swisher. Et tout le monde me fait un beau swish, swoosh. La troisième chose qui est importante, c'est que le swoosh n'est pas l'unique façon que Dieu renouvelle nos forces. Ils vont prendre leur envol. Swoosh, ça c'est Dieu qui vient et puis il intervient dans ma situation, une intervention divine. La deuxième façon que Dieu renouvelle nos forces, c'est en me rendant capable de résister et de renverser ce qui m'envahit. Il y a des situations où Dieu va le faire, mais d'autres situations où il va falloir que tu continues à courir. Il court, pas il vole, on voudrait juste voler. Une situation dans ta vie où il faut que tu cours. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon, puis c'est un ultra-marathon. À l'âge de 18 ans, j'ai couru un marathon. C'était il y a 42 ans et il y a 42 livres. C'était une autre époque. J'ai couru un marathon. Je l'ai fait en 3h50, c'est comme 5 minutes et quelques du kilomètre, 42 kilomètres quand même. Et j'ai couru aucun amen, rien. Correct, je vais vivre avec mon rejet personnel. Et j'ai couru le marathon à 18 ans et j'avais fait deux fois avant un 25 km et ça avait très bien été et je ne connaissais pas assez ça parce que je me sentais en confiance. Vu que j'ai fait le 25, je vais être correct. Mais tous les coureurs savaient qu'entre le 25 et le 42, il y a ce qui s'appelle le mur. Il y a quelque chose qu'à un moment donné, tout lâche, le corps lâche, tu sens que tu n'es pas capable de mettre un pied devant l'autre. Puis une affaire qui avait ajouté à mes problèmes, ça avait passé dans les journaux le lendemain. Croyez-le ou non, il y a des affiches tout le long de la course qui disent il te reste 30 km, il t'en reste 25, il t'en reste 20. Puis tu sais où tu en vas, puis tu mesures ton temps. Et moi, à un moment donné, je courais, et waouh, il te reste 15 km. Mais voyons, là, je regarde mon temps, ça n'avait aucun sens, mais tu cours tout seul, fait que tu penses que tu es meilleur que tu es. Je me suis dit, mais je suis bien en avance sur mon temps, c'est extraordinaire. Alors, je me suis mis à courir plus vite. Parce que là, j'approche, 15, il reste 15 km, j'ai hâte de voir l'autre pancarte. Il court. J'arrive à l'autre pancarte, il vous reste 30 km. Le lendemain, dans les journaux, il y avait des vandales. Il y avait des jeunes pour s'amuser, des messagers de Satan, qui... La manchette, le lendemain, ça disait, ils ont changé les affichages de la ligne d'arrivée. Tout le long que je courais, il y avait sur le bord des lits de camp, des gens qui donnaient du jus, de la bouffe, et je voyais les coureurs s'arrêter, puis il y en a un qui court à côté de moi, puis il me dit, ah, j'en peux plus, je vais juste m'arrêter un petit peu, je recommence après. Moi, je me suis dit, si je m'arrête là, je bouge plus jusqu'à mardi matin. Alors, c'est un dimanche. Il court et ne se lasse pas. Lorsque tu vas, il y a des combats dans la vie, que ça ne soit pas swoosh, faut que tu cours. Il faut que tu continues à courir. Et le psalmiste dit, pourquoi, lorsque tu cours quelques conseils importants, pourquoi t'as battu, ô mon âme, psaume 42, et j'ai mis tout dedans de moi, confie-toi, kavak, en Dieu, ramène tout en Dieu, car je le louerai encore. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Lorsque tu cours, il faut que tu choisisses quel flot. Un flot appelle un autre flot. Si tu laisses entrer dans ta vie des flots de critique, des flots de négativisme, des flots d'impureté, des flots de dureté, des flots de commérage, de mamérage, de déchirement, c'est ça qui va nourrir ton âme. Toutes tes vagues et tes flots appellent d'autres flots. Mais là, il dit à Dieu, toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde de sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Quand tu cours une longue course, n'écoute pas ton âme. Parle à ton âme. Mon âme, pourquoi j'ai mis ça au-dedans de moi? N'écoute pas tes émotions, tes sentiments, ta personnalité, ton passé, ton arrière-plan, ton make-up psychologique et le reste, ce qui fait que tu es toi. Écoute pas ton âme. Écoute, parle à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. Cours et continue à courir en choisissant tes flots et en laissant les flots de Dieu venir te donner le deuxième souffle pour renverser le mur. Parce que s'il me libère dans le swish, swoosh, en intervenant, il vient me donner des forces. Il vient le faire en m'insufflant son souffle. Parce que je vais te dire de cette façon, lorsque tu cours pour Dieu, ne focalise pas sur les affiches qui annoncent les lignes d'arrivée. Elles vont changer. Dans chaque aspect de ta vie, tu cours, là, j'arrive proche, ça s'en vient ce projet-là, ça s'en vient cette relation-là, ça s'en vient cette personne-là, ça s'en vient, je suis proche, j'arrive. Hein, comment ça? La ligne d'arrivée, les affiches ont changé, mais Dieu ne change pas. Cours avec le flot de Dieu en toi, parlant à ton âme, remettant-toi entre ses mains. Oui, mais moi, Pasteur Claude, c'est pas... C'est comme si j'ai même plus la force de courir. Moi, c'est plus là, la prochaine photo. Moi, c'est plus ça. Moi, parce que là, je n'ai même plus la force de courir. Si tu savais ce que j'ai traversé, si tu savais ce que je traverse, j'ai même comme pas. Je suis loin du swoosh. Je n'ai même plus la force de courir. OK, marche. Continue à marcher avec ton Dieu. Il y a des épreuves dans la vie, un deuil, un divorce, un déchirement, une faillite. Une trahison, quelqu'un dans ta famille qui te fait souffrir par ses comportements pendant des années, et pendant des années, c'est pas swoosh, c'est même pas juste une course, il faut juste que tu marches. Continue à marcher. Ceux qui se confient en l'Éternel, marchent. Marche, parce que la dernière façon, je termine ce matin, que Dieu vient renouveler nos forces, c'est en me remplissant de puissance au quotidien pour rester fidèle dans l'épreuve. Il marche et il ne se fatigue pas. Parfois, il intervient. Toujours, il va m'insuffler pour que je puisse continuer à courir. Je cours depuis 4 décennies avec Dieu. Il y en a eu des saisons où j'ai frappé des murs. Mais il donne un souffle. Ses flots passent sur moi. Non, mon âme, je ne t'écoute pas. Je parle à mon âme. Et il renouvelle les forces. Il te donne la force. Un deuxième souffle et un troisième et un millième. La troisième façon, c'est que parfois, les situations où j'ai prié, je cours depuis tellement longtemps, mais parfois, à travers certaines situations, alors que la situation ne change, ne semble pas changer, Dieu est en train de me changer, moi. Il est en train de te changer, toi. J'appelle ça non seulement qu'il vient nous renouveler en intervenant, en insufflant, Mais il vient à travers ces longues saisons où tout ce que tu peux faire, c'est marcher. Je continue à marcher pour Dieu. Il vient en m'immunisant. Tu sais, c'est quoi être immunisé? Le terme, je donne la définition, c'est protéger, mettre à l'abri, ne plus être vulnérable. Ne plus être vulnérable à. Il y a quelque chose qui m'avait attaqué, que j'ai combattu, mais que je suis maintenant plus fort que ce qui m'avait attaqué, qui n'a plus d'emprise sur moi. Je suis immunisé. Il y a des combats où Dieu renouvelle mes forces, alors que la situation ne semble pas en ce moment changer, mais il me change moi. Et si tu remets tout en lui, et si tu reviens à lui, et tu remets tout en lui, tu rassembles tout en lui, et tu te rappelles de qui il est, son caractère, sa fidélité, il y a quelque chose qui va t'arriver. Tu vas devenir immunisé à vouloir lâcher, à vouloir abandonner, à vouloir tout balancer, à vouloir te torturer avec des questions, sa réponse. Tu vas devenir immunisé aux pièges et aux attaques et aux mensonges et aux tourments des pourquoi éternels que l'ennemi essaie de mettre dans ton âme parce qu'il y a quelque chose qui s'est bâti en toi. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, mon Dieu ne jettera jamais un roseau qui est brisé, mon Dieu n'éteindra jamais une flamme qui brûle encore. Il est fidèle, il est grand, et même à travers ceci, je marche. Je vais continuer à marcher avec lui. Je vais continuer. Que ceux qui veulent continuer à marcher avec lui applaudissent et disent amen ce matin. Donc, les musiciens vont commencer. Juste lire un dernier passage. Je suis immunisé à abandonner, à lâcher, à questionner Dieu. Ces saisons-là font plus partie de ma vie. J'ai été immunisé parce qu'il y a des combats que je marche depuis tellement longtemps. Mais Dieu a tellement fait briller sa fidélité. Et j'ai confiance en lui à un tel point que je sais que toujours, toujours, il prépare un cantique nouveau pour moi. Qui me tend la main et me dit, tiens, je vais marcher avec toi. Il me tend la main. Ésaïe 42, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je vais te garder. Marche avec moi. Marche, arrête pas de marcher. Tu dis, je ne suis pas capable de courir en ce moment. Marche avec moi. Marche avec moi, on va passer 2022. Marche avec moi, on va passer ce divorce. Marche avec moi, on va passer cette peine. Marche avec moi, on va passer cette fausse couche, cette perte de bébé qui t'a déchiré le cœur. Marche avec moi, on va passer ce long combat. Combat pour cette personne-là. Et tu dis, les choses n'ont pas l'air de changer. Mais j'agis, je suis en train d'agir et je suis en train de te changer de toi. Et je grandis en toi, puis on marche ensemble. Et tu me donnes des forces et je marche. Et je ne m'épuise pas. Je marche et je ne m'épuise pas. Voici les premières choses. Je te prends par la main, je t'ai appelé. Je te prends par la main, je te garderai, je t'établirai. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne change pas, c'est ça que je fais. Voici les premières choses se sont accomplies, mais je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les annonce. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Voici pourquoi je ne lâche jamais. Et je vais continuer à marcher avec mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. C'est que je l'ai vu tellement de fois venir me renouveler mes forces. Chouich! Un miracle qui m'émerveille. Waouh! Seigneur, tu m'as sorti de cette situation. Tu m'as sorti de... Tu as guéri, tu as. Et je l'ai vu aussi depuis toutes ces années, alors que j'avais à courir. Renouveler mes forces. Et quels que soient les murs, les affiches changent. Parfois, je pensais que j'étais proche. Je pensais que ça s'était réglé. Je pensais que 2020, on avait un plan très clair sur ce qui se passerait. C'est quoi ça, une pandémie? Les affiches changent. Mais Dieu ne change jamais. Et lui, il est là. Et il court. Alors marche et cours avec lui. Et je marche parce qu'il est toujours en train d'écrire un cantique nouveau. Hier matin, il y avait un déjeuner d'hommes ici à Nouvelle-Vie. J'étais tellement béni, je suis venu assister. Il y avait un de mes gendres qui donnait son témoignage. Il y avait plusieurs. Mes deux gendres étaient là. Mon petit-fils était là. Il y avait plein d'hommes. J'étais à l'arrière juste à regarder la scène. Je suis pasteur. Je connais plein de gens. Leur histoire. Puis j'étais à l'arrière. J'étais profondément ému. C'est des hommes, un déjeuner d'hommes. Il écrit toujours un cantique nouveau. J'ai vu un homme qui était là, qui a donné témoignage de comment son épouse a souffert. On l'avait porté avec lui. Il a traversé 10 ans. De perdre, de problèmes de vue tellement graves qu'elle perdait la vue, de devenir aveugle et tout ce que ça signifiait pour sa famille. J'ai vu cet homme-là juste continuer à marcher, continuer à servir, continuer à faire confiance, continuer à être renouvelé dans ses forces et témoigner de comment Dieu a guéri, comment Dieu a restauré. J'ai vu un homme qui était là, un jeune homme, né dans la pauvreté, foyer d'accueil, des enjeux d'abandon, de rejet, de refus, pendant de longues années pour une carrière qui était sa carrière de rêve. Mais je l'ai vu, j'ai vu ce jeune homme-là continuer à marcher. Continuer à marcher avec Dieu. Continuer à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, alors qu'il est dans son travail de rêve, ce qui était le plus important, c'est qu'il racontait toutes les personnes qui sont venues au Seigneur à travers son témoignage. J'ai vu un homme, Dieu a toujours un cantique nouveau, j'ai vu un homme qui était là hier matin, confesser une dépendance où il s'est fait du mal, puis il a fait du mal à sa famille, fait du mal à son mariage, à un point de son mariage est en péril. Mais il a continué à marcher avec repentance, avec humilité. Et le Seigneur renouvelle ses forces. Et le Seigneur a écrit un cantique nouveau. Et lui et son épouse peuvent vous témoigner du pardon, de la grâce, du cantique nouveau. J'ai vu un homme qui était là, que j'ai accompagné, plusieurs d'entre nous l'ont accompagné, qui, pendant une longue saison, il n'y avait pas de swoosh. Il courait, mais des bouts, il pouvait juste marcher avec son fils qui était aux prises avec des problèmes de santé mentale tellement graves, avec des psychoses répétées et toutes sortes de... un poids hallucinant. J'ai vu cet homme-là et son épouse juste marcher. Je marche. Il renouvelle mes forces. Je marche. Il renouvelle mes forces. Et hier, ce jeune homme, ce fils-là, qui est maintenant restauré, il est solide, il est fort, était debout à côté de son père dans le témoignage. Hier, témoignant de comment Dieu l'a ramené. Comment Dieu... Il marche. Et Dieu écrit toujours un cantique nouveau. Et si on avait besoin à quelques semaines de nos conseils de Noël et de tout ce qu'on va faire pour aller rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, si on avait besoin d'un rappel prophétique, lorsque le déjeuner des hommes se termine, et tout à coup, il y a un monsieur de la rue. Il y a un homme de la rue qui entre dans l'église, en désorganisation complète. Il est violent, il est perdu, il est désespéré. Il est profondément, gravement suicidaire, obsédé par des idéations suicidaires. Les hommes qui étaient là du déjeuner qui se sont occupés de lui. Mon gendre est un pompier, était un premier répondant habitué. Alors, ils l'ont calmé, ont appelé les policiers, ont appelé l'ambulance. Ce monsieur-là était en danger, venu. Et moi, lorsque j'ai appris ça, c'est seulement ce matin quand quelqu'un m'a dit ce témoignage-là. J'ai reçu dans mon esprit cet appel. Le Seigneur dit, à l'extérieur de vos murs, il y a des multitudes. Comme cet homme-là a été comme attiré divinement, couru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'apaiser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut renouveler mes forces? Il y a des multitudes autour de nous. Dieu va les attirer vers sa maison. Il va les attirer vers son amour. Il va les attirer vers lui, car il est le Dieu qui renouvelle les forces. Et ceux qui le croient, crient un dernier Amen ce matin. Et donnez une belle acclamation, Seigneur, avec moi.